Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Éric Orsenna, dont je rappelle qu'il a été reçu à l'Académie française il y a 11 ans, c'était en juin 1999, et qui vient de publier en coédition Stock Fayard un roman intitulé « L'entreprise des Indes » qui évoque, raconté par son frère Bartholomé, la genèse de la grande aventure de Christophe Colomb, passionnément résolu à découvrir la route des Indes par l'Ouest. Ceux qui gardaient la nostalgie du Orsenna de l'exposition coloniale, donc prix Goncourt 1988, d'une grande fresque sur le monde, l'homme et son histoire, ne vont pas être déçus. L'entreprise des Indes est, à mon sens, dans la carrière d'Éric Orsenna, l'œuvre de la maturité, associant avec une aisance stupéfiante malice et intelligence, humour et culture, grâce et gravité. Éric Orsenna, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. La première chose qui frappe lorsqu'on rentre dans l'univers de votre livre, c'est de constater le foisonnement culturel de cette époque, la fin du XVe siècle, dans des villes comme Lisbonne ou comme Louvain. C'est vraiment extraordinaire.
En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que le monde commence à s'ouvrir. Le monde sort de la chape de plomb qui avait pesé sur les intelligences pendant 17 siècles. Quand on imagine qu'en 262 avant Jésus-Christ, un homme, Ératosthène, qui dirigeait la bibliothèque d'Alexandrie, a l'idée de mesurer les angles que font les ombres le jour du solstice d'été et d'en déduire la courbe de la Terre et de déduire de la courbe de la Terre la taille du globe terrestre.
Le plus drôle, c'est en plus, c'était avec des chameaux.
Et alors, il fallait deux choses. Il fallait d'abord mesurer l'angle que faisait l'ombre à Alexandrie. Il fallait mesurer la distance, bien sûr. Et si on avait ces deux éléments-là, on avait une mesure exacte de la taille de la Terre. Et donc, il a fait aucune erreur, cet Ératosthène, sur la mesure de l'angle, bien sûr. Mais il a fait une erreur sur la distance, parce qu'il n'y avait pas des GPS, il n'y avait pas des lasers. Et donc, c'était les pas des chameaux. Alors, évidemment, un chameau n'est pas un personnage extrêmement précis dans sa démarche. Et après, pendant 17 siècles, on a continué à faire semblant de croire que la Terre était plate, et tout ce genre de billevesées. Et là, brutalement, par la nécessité de la navigation, on est obligé d'être intelligent. Et ça, ça commence à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle. Donc j'étais mais vraiment ébloui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là où on est intelligent, c'est là où on est tolérant et en paix. Ce qui se passe avec Lisbonne, c'est qu'ils ont depuis longtemps, par rapport à l'Espagne, chassé les Arabes, mais gardé beaucoup d'Arabes en même temps. Et qu'ils ont accueilli tous ceux qui étaient chassés ailleurs. Par exemple, les Juifs de la grande école de cartographie de Majorque, qui avaient été chassés par les monarques de Catalogne. Donc, on est dans un monde en paix, dans un monde qui veut comprendre, dans un monde de tolérance, où tous ceux qui ont à apporter leurs compétences, quelles qu'elles soient, dans la construction des bateaux, dans la construction des voiles, dans la cosmographie, dans la cosmogonie, dans la cartographie, dans les mathématiques, dans tout ce qu'on peut imaginer, se sont donné rendez-vous à Lisbonne. Et ça, c'est merveilleux. J'ai une passion pour le XVIIIe siècle des Lumières et je ne savais pas que Lisbonne avait été une telle capitale du savoir.
Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est l'importance des sciences dans cette culture, les sciences fondamentales, les mathématiques. D'ailleurs, vous êtes tombé amoureux des mathématiques, là.
Oui, j'avais fait un peu de mathématiques pour les études d'économie, mais c'était des mathématiques assez triviales. Et puis, il se trouve qu'à l'Académie, je suis au 17e fauteuil et que le nombre 17 est un nombre premier. Donc, je me suis intéressé à la magie des nombres premiers. Et puis, j'ai un professeur de mathématiques qui est polytechnicien en même temps qui a fait les eaux et forêts, qui s'appelle Jean-Baptiste Cuisinier. Et c'est lui qui me donne des cours de mathématiques assez régulièrement. Et c'est lui qui m'a montré à quel point la trigonométrie, la science des triangles, était une magnifique discipline. C'était la discipline qui permet de calculer la distance. Si vos deux yeux et puis l'objet ou la personne que vous regardez, ça constitue un triangle. Et c'est ce triangle-là qui vous permet d'évaluer la distance. C'est pour ça que vous avez un seul œil, vous n'avez pas la distance.
Alors l'un donc, des... Oui.
Et donc c'est ce monde-là, alors le triangle aura aussi des tas de mystères, de symboles avec les maçons, avec tout ça, etc., les francs-maçons. Donc enfin, on est dans ce savoir et vous savez, ma passion c'est d'apprendre, apprendre et raconter. C'est une passion, mais qui... Alors, je pensais qu'elle se calmerait avec l'âge. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est de plus en plus ça. Et comme j'ai de plus en plus l'occasion de rencontrer des gens qui sont des professeurs absolument merveilleux, et notamment ici à l'Académie, parce que j'écoute les leçons à l'Académie française, mais aussi dans les autres académies. Donc, imaginez, quand on est membre d'une des académies, on a à côté une encyclopédie vivante, prodigieuse. Il suffit d'appeler pour avoir, quel que soit le domaine, une leçon.
Alors, ce que vous racontez d'étonnant, c'est lorsque vous dites que dans le destin de Christophe Colomb, justement, le fait que son père ait voulu qu'il devienne, je vous cite, hein, l'ami des nombres, a joué un rôle essentiel.
Alors là, c'était exactement le cœur, enfin l'exemple d'un travail de romancier. Je voulais qu'on célèbre les mathématiques. Je ne savais pas comment le faire. Et je me dis, bon, comment vais-je pouvoir introduire dans mon histoire l'enseignement des mathématiques aux enfants colons. Et brut, alors j'essaye une fois, deux fois, trois fois, puis ça ne marchait pas. C'était lourd, c'était pas naturel. Et je me dis qu'au fond, le père des frères colons était un petit tisserand, et puis après il vend du vin, il n'était pas riche. Donc il se dit, et c'est assez possible, sinon probable, il se dit que si j'apprends les nombres à mes enfants entreront dans l'amitié des nombres, et les nombres leur rendront l'appareil, et donc mes enfants deviendront riches. Et donc c'est comme ça qu'il choisit dans mon histoire, il choisit un marin qui n'avait pas d'embarquement et qui va donner des leçons d'algèbre aux enfants colons. Donc c'est possible, en tout cas c'est probable et ça paraît assez naturel. Et c'est comme ça que moi-même, j'ai appris l'origine de l'algèbre.
Et donc, oui, le mot lui-même, vous le dites.
Oui, c'est l'épreuve, qui, il y a plusieurs mots en même temps. C'est à la fois l'épreuve, c'est l'habileté, c'est la réduction d'une fracture. Enfin, c'est quelque chose, au début, les mathématiques, d'extrêmement concret. C'est-à-dire, on utilise le calcul, on utilise l'algèbre pour résoudre des problèmes d'héritage, des problèmes de partage du foncier, etc. Donc, c'est des questions très, très concrètes. Et c'est dans cet endroit que j'aime tant, qui est l'Asie centrale, entre l'Irak et l'Ouzbékistan. C'est là que ça a été inventé. Donc, vous savez, les livres, pour moi, c'est vraiment l'occasion d'apprendre et de raconter. C'est ça, ce que j'aime le plus au monde. Donc, plus j'apprends, plus je suis heureux, en fait, depuis toujours.
Donc là, on découvre l'importance culturelle des sciences, mais on s'aperçoit également qu'à cette époque-là, les sciences avaient un rôle politique essentiel, puisque vous nous expliquez que si Christophe Colomb n'a pas pu réaliser son rêve sous l'étendard portugais, alors qu'il bénéficiait de la sympathie, c'est le moins qu'on puisse dire, du roi Jean II, c'est parce que le comité des mathématiciens s'est opposé à lui, son projet, d'ailleurs, avec une certaine raison d'ailleurs.
Alors, il faut d'abord se rendre compte que lorsque on navigue en cabotant, c'est-à-dire en longeant les côtes, on n'a pas besoin de mathématiques compliquées puisqu'on navigue à vue. Et quand vous avez des nappes de brouillard, vous avez des coupes-vents, ben vous ne voyez plus pendant un moment donné, vous allez un peu au large, puis vous revenez, vous savez exactement ça se passe. Si vous avez comme projet de traverser des mers, là vous êtes obligé de faire des mathématiques parce qu'il faut calculer la hauteur des étoiles, autrement vous allez être complètement perdu. Et donc il y avait vraiment une nécessité là de le faire, première chose. Et deuxième chose, depuis Henri le Navigateur, c'est-à-dire vers 1430 par là, il y avait des conseillers mathématiciens auprès d'Henri le Navigateur et puis après auprès des différents rois du Portugal qui donnaient leur avis sur les projets de navigation. Donc on présentait un projet comme aujourd'hui quand on a besoin d'un mécène, d'un sponsor, on présente un projet et puis il y a des conseillers qui disent c'est possible, pas possible. Donc les deux frères Colomb, ce que je ne savais pas avant de travailler, présentent en 1484 leur projet de naviguer vers l'ouest. Et Christophe Colomb donc passe un examen devant un certain nombre de mathématiciens, tout ça est vrai, et les mathématiciens le regardent goguenard, parce qu'ils disent, vous avez fait deux erreurs, monsieur le génois Christophe Colomb. La première erreur, c'est que vous donnez de la Terre une dimension beaucoup plus petite que celle qu'elle a en réalité. Et nous, on sait, puisque depuis Ératosthène, c'est-à-dire 17 siècles avant, on sait parfaitement la taille de la Terre. Donc ce que vous dites, c'est faux. Et deuxièmement, c'est pire, vous donnez du continent eurasiatique une dimension plus grande qu'elle n'est en réalité. Alors nous avons bien compris, monsieur le génois Christophe Colomb, votre manœuvre, et vos faussetés, et l'utilité de vos faussetés. C'est que si le globe terrestre est plus petit que le réel, et si le continent eurasiatique est plus long, le voyage entre le Portugal et l'Asie sera beaucoup plus court. Or, le voyage, il est le double ou triple de ce que vous dites, donc votre voyage est impossible. Donc, nous recommandons au roi Jean II de ne pas vous donner d'argent pour financer votre voyage. Et là, ça s'est passé exactement comme ça.
D'où l'Espagne.
Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que à partir du moment où Christophe Colomb voit son projet refusé à Lisbonne, il va essayer ailleurs. Donc, il va mandater son frère Bartholomé pour aller plaider le dit projet auprès du roi d'Angleterre d'abord, qui dit non, auprès des rois de France successifs qui disent non aussi. Et pendant ce temps-là, lui plaide sans relâche auprès des rois d'Espagne et d'Isabelle la catholique. Et donc, qui finissent par dire oui, peut-être parce qu'ils sont moins compétents que les mathématiciens portugais. Et tout découle de là, parce que si les Portugais avaient dit oui, eh bien, la découverte aurait été portugaise et non point espagnole.
Alors, ce qui est assez déroutant hein, pour un lecteur du XXIe siècle, c'est de se rendre compte à quel point, à cette époque, dans l'univers cultivé, il y avait une continuité historique, au fond. À la fin du XVe siècle, pour les gens cultivés, on était pratiquement contemporains des Grecs.
Absolument.
C'est étonnant. Et également pour l'héritage des Arabes. Alors, on sait très bien tout ce qu'on doit aux Arabes.
Oui, alors, parfaitement. C'est la continuité. Et dans cette époque de tolérance, ça ne va pas durer, mais dans cette époque de tolérance, chacun apporte son savoir. Les Arabes apportent les mathématiques, l'hydraulique, la science des jardins. Les Juifs apportent le sens de la finance et puis les cartographies. Il y a des mathématiciens, principalement allemands d'ailleurs, de façon intéressante. Il y a le début de l'imprimerie, puisque l'imprimerie, c'est 1450. Donc, on est vraiment au moment de l'explosion des techniques et des savoirs et qui vont vraiment évidemment être les outils de l'extension et d'une certaine manière de la mondialisation. C'est pour cela que cette période est tellement proche de la nôtre. C'est-à-dire que cette première mondialisation nous renseigne énormément sur notre mondialisation à nous parce qu'on voit aussi monter, nous, des tentations de l'obscurantisme. On voit à la fois des ouvertures et puis des replis communautaristes. On voit de la communication et en même temps des sortes d'inquisitions. Et donc, on est aujourd'hui, alors que je parle d'un temps de 1476 à 1484. C'est ça qui me passionne tellement.
Alors, à travers ce que vous dites de Christophe Colomb, on voit bien que pour vous, tous les hommes ne sont pas d'égale valeur, hein, que certains ont un destin vraiment hors norme. Ce qui est là aussi étonnant, c'est de comprendre que très tôt, en regardant les bateaux et presque surtout les tempêtes dans le port de Gênes, Christophe Colomb a une vision très claire de ce qu'il voulait faire d'exceptionnel.
Mais on dit, et je le crois, on dit que c'est Aristote, mais je ne suis pas très sûr. Mais en tout cas, on dit qu'il y a trois catégories d'êtres humains. Il y a les vivants, les morts et puis ceux qui naviguent.
Vous faites une distinction hein, entre ceux qui naviguent, vous le disiez tout à l'heure, il y a ceux qui vont de port en port, font gagner de l'argent,
et puis il y a
ceux qui vont
ailleurs. Il y a ceux qui vont ailleurs, qui veulent agrandir le monde. Mais en fait, ceux qui traversent, ils pensent qu'il y a des îles, oui, pas trop loin. Et c'est pour ça que la notion d'île, je me suis beaucoup attaché à cette question, parce que la notion d'île est évidemment très réconfortante quand on veut traverser la mer. Parce qu'on passe, l'idéal serait de passer d'île en île, comme de pierre en pierre d'un gué. Et il y a toutes sortes d'îles. Alors, par exemple, il y a les îles de devant. Et qu'est-ce que c'est, les îles de devant? Étymologiquement, c'est Anteilia, Antilles. Antilles, c'est les îles qui sont de devant. Et puis aussi, il y a des îles légendaires. Par exemple, tout le monde dit qu'il y a des îles flottantes. Alors, il y a des voyages mythiques, comme le voyage de Saint-Brandan, qui est... Et donc, on pense que c'est une île et c'est le dos d'une baleine géante. Et puis, il y a des îles qui sont des îles invisibles. Pourquoi? Parce que quand les Arabes envahissent jusqu'au dernier recoin de l'Espagne, en Galice, il y a sept évêques qui s'en vont pour ne pas tomber sous le joug des Arabes et de la foi musulmane. Donc, ils s'en vont en bateau. Et puis, alors, il leur arrive toutes sortes de choses. Mais à un moment donné, pour être sûr de ne pas être rattrapé par les infidèles, Dieu leur donne la possibilité d'aborder à une île qu'ils peuvent rendre invisible à volonté. Donc, quand on dit que quand on voit beaucoup d'oiseaux et qu'on ne voit pas de terre, ça veut dire que c'est l'île invisible des sept évêques. Donc, ce qui est intéressant dans cette époque, c'est que c'est évidemment infiniment romanesque, c'est à la fois cette montée de la science, alors que persiste la légende du Moyen-Âge. Il y a les deux en même temps. Et quand on voit le texte peut-être le plus bouleversant de Christophe Colomb à la fin de sa vie, qui s'appelle « Le livre des prophéties », on s'aperçoit que Christophe Colomb, il va s'acharner à faire passer sa découverte vers le statut de reconnaissance.
Autrement dit, il se croit habité, quoi.
Il se croit habité, il se croit mandaté, il se croit missionné et il cherche dans les textes saints, dans les Écritures, toutes les Écritures, l'annonce de sa venue. Donc, ce qu'il découvre, c'est...
Presque christique.
C'est tout à christique, c'est Christophoros, c'est celui qui porte le Christ, bah lui, il se porte lui-même, au fond, ce Christophe-là. Et donc, c'est l'autre Christ, et voilà, et comme il a une mission, évidemment, religieuse, d'agrandir le monde pour porter la parole du Christ un peu plus loin, donc ça, c'est ce côté complètement illuminé, complètement messianique qu'il a, parce qu'il veut évidemment convertir, mais il veut aussi trouver peut-être le paradis, comme toujours, l'Éden et l'Eldorado aussi. Et donc, on est dans ce mélange de savoir et de légende complète. Mais de l'autre bord, ceux qui le reçoivent, les Indiens, ils ont dans leur légende l'annonce de quelqu'un qui va arriver. Donc, ils ne le découvrent pas, ils le reconnaissent de la même manière. Donc, au fond,
c'est ce qui les désarme, d'ailleurs.
Ça les désarme au sens strict. Et au fond, les deux sont pareils. Christophe reconnaît les Indiens plus qu'il ne les découvre, et les autres reconnaissent Christophe plus que ne le découvrent. Donc, il y a une sorte de... Ils se sont reconnus plus que découverts. Et ça, cette antériorité des légendes, soit dans l'inscription, dans les textes saints, soit dans les paroles transmises de génération en génération, c'est aussi bouleversant. Donc, c'est vraiment un univers incroyablement mixte entre le savoir et la légende, entre la rationalité et la magie, entre la science et la religion.
Et troisième aspect, le vouloir, l'extraordinaire volonté de cet homme. C'est quasi hallucinant de voir la rigueur implacable avec laquelle il a construit, au fond, sa destinée. Quand vous racontez comment même son mariage a été conçu en fonction de son entreprise.
Alors, on imagine, et ça, alors il y a des tas d'hypothèses pour savoir si c'était un petit génois ou si il avait plus de poids social, est-ce qu'il n'avait pas quelques noblesses, on dit qu'il a été juif. Enfin, il y a des tas de choses, je n'ai pas voulu entrer dans ces questions-là. Ce qui est certain, c'est qu'il arrive naufragé en 1476 à Lisbonne et quelques années après, en 1478, il se marie avec la fille d'une très bonne famille de nobles de Lisbonne dont le père avait été le premier gouverneur d'une petite île au large, au nord-est de Madère qui s'appelle Porto Santo et que j'ai bien sûr visité. Et donc ce personnage, qui était un personnage assez loufoque, avait rassemblé énormément de savoir sur la navigation. Donc en se mariant avec cette fille de bonne famille, c'est pas trop l'argent qui l'intéressait, mais son intérêt dans cette affaire, c'était tout le savoir qu'avait sa belle-mère. Parce que sa belle-mère avait des documents extrêmement précieux sur les navigateurs du Nord qui étaient passés par l'Islande et sans doute par le Groenland, et puis sur des légendes, par exemple des bois flottés qui venaient de l'Ouest, ou l'histoire d'un pilote, c'est-à-dire d'un marin, qui aurait été poussé par une tempête d'Est jusque très très loin vers l'Ouest, et qui serait revenu et qui dit que oui, vers l'Ouest, il y a des terres aussi.
Mais l'histoire d'amour, vous l'avez inventée ou pas? Parce que ce mariage organisé donne, d'après vous, une histoire d'amour extraordinaire. Vous en parlez avec une tendresse, enfin vous parlez toujours avec beaucoup de tendresse des femmes, mais quand vous racontez, je les ai vus marcher, donc c'est Bartholomé, le frère qui parle, je les ai vus marcher par forte pluie, sans savoir lequel s'accrochait à l'autre, lui plus solide, mais elle plus agile, plus habile à choisir ses pas sur le sentier glissant.
Écoutez, j'ai vu cette île de Porto Santo et je les imaginais. Ce qui me frappe, c'est que c'est la seule période de Christophe Colomb où il est à peu près sédentaire. Et quand un marin est sédentaire, c'est qu'il est amoureux.
Ou qu'il prépare autre chose. Parce que là...
Ou qu'il prépare autre chose, mais quand même, il est resté un peu longtemps pour quelqu'un qui prépare quelque chose. Parce que les marins, quand ils préparent... Donc, qu'est-ce qui peut avoir une force supérieure à l'attrait de la mer? Ça peut être que l'amour. Alors, vous avez bien compris que je ne sais pas du tout s'ils s'aimaient et que c'est totalement autobiographique.
Alors, il y a...
Donc, quand on repart, ce n'est pas forcément bon signe non plus.
Non, mais là, il y a cette fascination.
Et elle meurt vite. Oui. Et il ne se remariera pas. Il aura d'autres femmes, mais ça ne comptera pas. Et puis, c'est son frère qui sera là. Et j'ai beaucoup de tendresse pour ce petit Diego qu'on retrouve, qui est donc le fils de cette femme.
Qu'il forme.
Exactement.
Là c'est pareil. Il le forme depuis le départ.
Oui. Et puis, il bisquait, parce qu'il est un peu comme les Bonaparte. C'est-à-dire que c'est le patron de la famille. Et il dit que son œuvre sera celle de l'ensemble de sa famille. Lui sera le chef de famille. Et il donnera les principales responsabilités à tous les membres de sa famille. Exactement comme Napoléon.
Alors, il y a ce destin extraordinaire. Mais jusqu'à la fin de sa vie, Christophe Colomb va refuser de reconnaître son erreur. Qu'il n'est jamais allé aux Indes, en fait.
Oui, parce que les voyages se multiplient après lui, pendant qu'il fait ses voyages à lui, et on se découvre bien qu'il y a des continents gigantesques un peu partout. Et donc, il s'en tient à sa conviction que eh bien, c'est les Indes qu'il a découvert. C'est pour ça qu'on donc, évidemment, on les appelle les Indiens. Il continue. Et il faut voir que la fin de sa vie, c'est un personnage qui est hanté par l'aigreur de ne pas avoir été suffisamment fêté. C'est vrai que c'est un très, très mauvais gestionnaire. C'est vrai qu'il a inventé complètement des mines d'or qui n'existaient pas, et alors les monarques voulaient des mines d'or. C'est vrai qu'il a été d'une violence avec son frère Bartholomé, absolument épouvantable avec les Indiens. Et donc, la fin de sa vie est terrible, parce que les monarques le dédaignent. Il doit, avec sans doute des rhumatismes terrifiants, aller d'endroit à endroit pour récupérer, pour retrouver la cour et pour plaider son dossier. Enfin, tout ça est d'une tristesse inouïe. Et d'ailleurs, c'est assez fréquent que les explorateurs deviennent fous. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ils ont été à l'extrême limite du réel. Donc, quand on s'aventure à l'extrême limite du réel, on perd, par définition, les repères. Et là, la raison vacille. Et ça me bouleverse. C'est une histoire, comme vous le sentez, qui m'a profondément bouleversé, qui m'anime depuis l'enfance. Et j'ai donc passé 5 ans et 9 versions du livre.
Vous avez eu le temps et raison de le faire. Votre livre, je me demande si ce n'est pas d'abord et avant tout un formidable hymne à la mer, dans toute sa démesure de beauté, de cruauté. Quand on vous lit et qu'on aime la mer et un peu la littérature, on pense à Hugo, on pense à London, on pense à Le Clésio. Et finalement, cette idée que la mer est capable de cristalliser les rêves, seule capable de cristalliser les rêves, les fantasmes et les manques les plus fous de l'homme, quoi. Vous avez cette phrase, cette petite phrase. Pourquoi voulez-vous tous repartir ? La réponse, elle est là, elle arrive terrible. La terre est trop fade. Vous éprouvez un peu cette sensation ?
Tout absolument, absolument. Je me suis demandé, au fond, ce que c'était que la mer. Et j'ai trouvé une réponse qui vaut ce qu'elle vaut. C'est que la mer est un miroir, mais pas du tout des visages. La mer est le miroir des hantises, bonnes et mauvaises, d'une part. En plus, la mer est à la fois la plus grande leçon d'humilité, parce que voilà, il faut s'affronter, on se rend compte immédiatement, comme en montagne, qu'on s'affronte à plus fort que soi, et en même temps, une formidable leçon d'obstination, parce que c'est pas parce que la mer est plus forte et que le vent souffle exactement, généralement, de l'endroit où on veut aller, qu'il faut abandonner son projet de voyage. Donc, il faut être infiniment obstiné, infiniment humble. Et je pense au fond que le bon cocktail d'humilité et d'obstination, ça fait les bonnes vies.
Y compris pour un écrivain.
Pour tout le monde, mais pour un écrivain encore plus. Un écrivain peut-être, parce que l'écrivain, il est... Vous savez, il est comme le marin, au fond, parce que...
D'ailleurs, vous faites un rapport entre le bateau et le livre.
Ah bah ça, c'est clair. Moi, c'est clair.
Ça, c'est étonnant. Quand même.
Non, parce que, vous savez, bon, j'ai pas construit moi-même, mais j'ai beaucoup suivi les constructions de bateaux. Et lundi, d'ailleurs, je vais aller voir celui qui refait mon bateau en bois. Donc, il y a des mauvais bateaux, c'est-à-dire on le sent mal et on sait en le construisant qu'il va mal tenir à la vague, il va mal rentrer dans le vent, il va beaucoup bouger aux allures portantes. On sait qu'il n'est pas bien né. Et c'est pareil pour les romans. J'ai fait 9 versions. Pourquoi ? Parce que c'était très mauvais. Ça a commencé à devenir correct à partir de la 5e version.
Mais c'est pareil pour l'exposition coloniale.
Oui, mais
c'est... Il a mis 7 ans à l'écrire,
oui,
je crois.
Oui, mais moi, j'aime le retravail. C'est-à-dire, j'aime le retravail. Donc, quand c'est mauvais, je ne suis pas du tout angoissé, je trouve ça normal. Et à un moment donné, pour les bateaux, comme pour les romans, vous savez que vous le tenez. Et à ce moment-là, la récompense arrive parce que le bateau ou le livre navigue tout seul. Il tient la mer. Il tient, c'est beau, regardez, il tient la mer. C'est une phrase magnifique, une expression. Il tient la mer. Et donc, vous pouvez vous laisser aller. C'est lui qui travaille. Il y a des moments, votre bateau travaille. Vous savez bien, vous l'avez bien réglé. À l'inverse, quand vous avez mal réglé votre bateau, ou quand vous avez mal choisi l'axe, la distance, le rythme, eh bien, votre livre ne tient pas le coup. Donc, il tient la mer, il tient le coup. Mais quand vous l'avez choisi... Vous laissez voguer votre livre, comme vous laissez voguer le bateau, et les barreurs, les meilleurs, sont ceux qui agissent le plus avec la mer et pas contre. Eh bien, c'est pareil avec l'écriture. Il faut laisser aller, mais évidemment en ayant tenu avant. C'est comme le cheval. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis qui font de cheval, et quand ils voient, notamment Louis Gardel, que j'aime tendrement, qui est un écrivain magnifique de Forsagan et de tas d'autres livres, et donc quand ils regardent un cheval... C'est comme moi quand je regarde un bateau au corps mort. Il piaffe, il attend. Et puis il sait très bien qu'il faudra dire au cheval qui est le patron, mais en même temps, il faudra le laisser aller. De la même manière que moi, je dis au bateau, c'est pas toi qui vas décider, c'est moi qui barre. Simplement, je serai le plus dans la douceur possible, le plus dans l'allant possible, le plus dans le respect de la vague. Mais c'est quand même moi qui sais là où je veux aller. Et alors, la ressemblance est encore plus fréquente parce que, au fond, il n'y a pas de route dans les livres. Les livres, ils tracent leur route eux-mêmes, exactement comme la mer. Il n'y a pas de route pour, sur la mer. Et puis, on a toutes les chances quand même que le livre ne laisse pas plus de traces qu'un bateau. Donc, c'est pour ça que tellement d'écrivains sont en même temps des navigateurs. Plus il y a la solitude, plus il y a la question du temps. Paul Morand dit une phrase merveilleuse. Il dit, quand on navigue, la première chose qui tombe à l'eau, c'est le temps. Et vraiment, c'est un temps particulier. Moi, j'adore que dès que je commence à naviguer pour des longues navigations, ça y est, le temps, il est différent. C'est parti. Voilà, s'il n'y a que l'écart. Donc, ce n'est plus le jour et la nuit, c'est l'écart. L'écart, donc on reste 4 heures en général, comme ça, responsable du bateau. Et avec ces phrases absolument magnifiques, il y a une phrase dans la marine marchande que j'aime énormément, quand l'équipe, le quart qui descend est remplacé par celui qui va monter. Donc, celui qui est le chef de quart qui descend, va réveiller l'équipe d'après et lui dit cette phrase magnifique, « À toi le soin ». À toi le soin, ça veut dire « À toi le soin du bateau, à toi le soin ». Et ça, ce genre de phrase me bouleverse parce que c'est du respect, c'est de la fraternité, on sait bien qu'on est tous solidaires. Donc, enfin, vous sentez bien que, voilà, je ne conçois pas une vie sans naviguer. C'est impossible pour moi, impossible.
Pour revenir une dernière fois au rêve de Christophe Colomb, on découvre donc dans ce roman que la recherche du route vers l'Inde par l'Ouest, c'est en fait une obsession qui a traversé les siècles et même les millénaires. C'est vous qui avez inventé ou c'est vrai qu'Aristote et Sénèque aient été mêlés à cette histoire ?
Bien sûr, depuis toujours, ils pensaient qu'on pouvait y aller des deux côtés, bien sûr. Et ils pensaient ça pourquoi ? Parce que les routes terrestres étaient des routes extraordinairement dangereuses, parce qu'il y avait des bandits, c'était très loin, il y avait des montagnes. Donc, ils se disaient, sur la mer, bon, il y a des tempêtes, mais enfin, c'est finalement peut-être moins dangereux que les bandits. Donc, et puis, il doit bien y avoir quelque chose de l'autre côté, parce qu'ils avaient le sens de la symétrie. Donc, ils disaient, c'était plat, mais ça doit quand même être rond. Et donc, ce qui est formidable, c'est ça, c'est-à-dire, c'est ces imaginaires qu'ils avaient dans la tête. Ça, c'est pour ceux qui réfléchissaient. Et puis, le culot invraisemblable de naviguer, sans savoir ce qu'on va trouver quand même. Parce qu'on avait beau dire que c'était sans doute rond, on avait beau dire que bon, on savait quand même pas ce qu'on allait trouver de l'autre côté. On savait pas si ça serait chaud toujours et ça serait vivable. On savait pas. On savait pas s'il y avait des gouffres, on savait pas s'il y avait des monstres, on savait pas tout ça. Et donc, et puis, imaginez ce que c'est de s'éloigner du monde connu pour aller vers quoi, on ne sait pas. C'est pour ça que Christophe Colomb a fait 2 journaux en parallèle. Un journal où il racontait la réalité, qu'il gardait soigneusement cachée, c'est-à-dire les distances parcourues, et l'autre où il trichait sur les distances en disant à son équipage qu'ils avaient parcouru moins d'espace qu'en réalité. Comme ça, ils étaient moins loin qu'ils ne croyaient de la terre du Portugal. Donc voilà, c'est tout ça que j'ai voulu raconter, mais surtout ces préparatifs de voyage, c'est que on a l'impression comme ça que Christophe Colomb, il est parti un beau jour vers l'Ouest en disant « Tiens, ben, on va mettre le cap à l'Ouest, pourquoi pas, c'est bien l'Ouest. » Alors qu'il a bossé 20 ans pour préparer et il a lu comme peu de gens ont lu.
Oui, Marco Polo, et vous citez un évêque d'ailleurs, cet évêque de Cambrai, vrai que son livre est aussi formidable.
C'est un livre absolument magnifique.
Dailly, c'est ça,
un livre, il s'appelle Pierre Dailly, il était évêque de Cambrai, il avait joué beaucoup de rôles pour essayer de pacifier l'Église du schisme. Et il avait, comme c'était un peu la mode à l'époque, quand on était très cultivé, ce qui était évidemment son cas, il avait rassemblé tout ce qu'on savait sur l'état du monde à l'époque. Tout, de Ptolémée, d'Aristote, jusqu'aux dernières découvertes. Donc, tout était là. Et ça paraît vers 1415, par là. Christophe Colomb s'en procure un exemplaire pendant qu'il est à Lisbonne. Moi, je me suis procuré un fac-similé de ce livre absolument prodigieux. Et à toutes les pages, vous avez un commentaire écrit par Christophe Colomb. À toutes les pages. Dans un drôle de latin. On appelle ça des apostilles. Et il y en a plusieurs centaines. C'est-à-dire, il annote ce livre-là. Comme il a annoté
Marco Polo,
les autres. Et Marco Polo, il a annoté. Donc, c'est étrange parce que ce marin est un érudit. Donc, le rêve s'est préparé dans les livres. Donc, il a d'abord navigué dans les livres avant de naviguer sur la mer. Il naviguait sans arrêt, mais c'est aussi un lecteur. Donc j'aime évidemment, en tant que lecteur fou que je suis, d'avoir cette préparation, parce qu'on navigue dans les livres, comme on navigue sur les cartes avant de naviguer
donc,
sur la mer.
Donc vous retrouvez un petit peu en lui. Quoi.
Bah, totalement.
Alors Éric Orsenna, il y a en fait deux parties infiniment contrastées dans votre livre. Hein, jusqu'à la page 332, ce qui domine c'est le rêve, la sensualité, l'intelligence, la culture, et puis tout à coup, paf, la troisième partie, 54 pages. Et ça, le lecteur ne les oubliera pas de sitôt, parce qu'avec une précision méticuleuse, vous nous plongez au cœur de l'une des deux ou trois plus grandes interrogations de la destinée humaine, celle de l'existence banalisée du mal. Et,
oui,
et ça nous tombe là. Et vraiment, j'allais dire, pardonnez-moi, même à l'Académie, ça nous tombe sur la gueule. Et on peut dire, et vous le soulignez d'ailleurs, qu'il y a une coïncidence terrible, c'est que Christophe Colomb s'en va le 3 août 1492, qui est un jour atroce.
C'est le dernier jour permis par les monarques espagnols aux Juifs pour partir. Ils doivent être partis. Tous les Juifs du royaume d'Espagne qui n'ont pas voulu vraiment se convertir. Donc ils doivent être partis. Alors qu'ils sont là depuis des siècles et des siècles. Et ils occupent des places souvent extrêmement éminentes et nécessaires pour le royaume. Donc le jour où Christophe part pour agrandir le monde, c'est le jour où l'Espagne se ferme. Donc c'est quand même fabuleux comme rapprochement. Et puis il y a un autre chiffre qui est terrible. On ne sait pas exactement combien d'Indiens il y avait sur l'île de Saint-Domingue, Haïti, Hispaniola, quand Christophe Colomb aborde. C'était l'île la plus peuplée, on dit au moins 2 millions d'Indiens. En 1520, c'est-à-dire 30 ans après, il y en a 20 000.
Mais alors, est-ce que ça s'est vraiment passé comme vous le racontez? Parce que c'est vraiment atroce, quoi. Quand vous nous racontez comment des hommes ont formé spécialement des chiens, les ont formés pour manger de l'Indien, pour
alors,
déchiqueter de l'Indien.
Ça
s'est vraiment passé comme
oui,
ça.
Oui, alors on peut se demander comment une centaine d'Espagnols ont-ils pu dominer autant d'Indiens. Il y avait des armes, mais ce n'était pas le principal. Le principal, c'est au fond les animaux. Car les Indiens ont été terrorisés par les chevaux, qui n'existaient pas, qui ont débarqué. Et qu'est-ce que c'est que cet animal mythologique? C'est des terreurs aussi qui leur rapportent, c'est des monstres. Et puis, ils avaient des chiens gentils qui mangeaient de temps en temps. Bon. Et ils ont vu arriver des molosses incroyables, qui étaient des chiens d'élevage en Espagne, mais qui avaient été dressés pour être de génération en génération pour être d'une férocité absolument épouvantable, et notamment pour courir sus aux Indiens, de leur broyer les os, de les dévorer, etc. Et donc les Indiens s'enfuyaient dès qu'ils voyaient ces molosses incroyables. Tout ça est absolument vrai.
Authentique.
Absolument vrai, parce que vous imaginez bien que j'ai pris des conseils des plus grands spécialistes, dont Jean-Paul Duvios, qui est le grand spécialiste de toute cette histoire, qui a été longtemps professeur à la Sorbonne. Et puis, j'ai travaillé avec tous ceux qui sont des écrivains de l'éditeur magnifique Chandaigne. Michel Chandaigne, qui est allé, rue Tournefort à Paris, et quand vous passez par Paris, allez, c'est un éditeur prodigieux. Et donc, évidemment, j'ai appris ces choses-là. Donc, j'ai demandé quels étaient ces chiens. Elle m'a dit, oui, c'est des chiens qui je sais pas, doivent être au garrot plus d'un mètre, et c'est terrifiant.
Mais là, la plus grande interrogation du livre, c'est le narrateur lui-même, donc le frère de Christophe Colomb, Bartholomé, qui la formule, lui qui est un sage, qui est un homme de culture, il se demande comment, en tant que gouverneur, non seulement il a laissé faire tout ça, mais il a même, dites-vous, récompensé certains maîtres chiens. Comment est-ce possible?
Alors,
c'est la grande interrogation
alors,
sur le mal.
C'est la grande interrogation sur le mal, et on se demande comment autant de générosité qu'il y a dans la curiosité, autant d'allant, de passion des sciences, etc., se change brutalement en la plus terrible des cruautés. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Christophe Colomb? Il avait promis au roi, et justifié ainsi son voyage, qui rapportera énormément de pierres précieuses et d'or. Il trouve très peu de pierres précieuses, et beaucoup moins d'or qu'il avait prévu de ramener. Ce qui veut donc dire que s'il ne trouve pas un peu plus de ces pierres précieuses et de cet or, il ne pourra pas financer le voyage d'après. Parce qu'on dira, vous êtes un menteur. Et que donc, cette question-là va être posée. Donc, il va forcer les Indiens à sortir de mines pas très riches, beaucoup plus d'or qu'ils ne pouvaient le faire. Donc, cette cruauté va engendrer la cruauté. Et donc, je décris des gravures qui sont juste un peu postérieures, mais qui correspondent à des scènes qui ont tout à fait été vécues, où des troupeaux de chiens sont lancés et dévorent des populations entières d'Indiens, où des bébés sont coupés en deux dans le sens longitudinal et grillés, où des femmes enceintes sont percées de lances.
Enfin, on sent le plaisir en plus.
Mais c'est terrible. Et c'est pour ça que. Et alors, tout ça entraîne des tas d'autres questions. Pourquoi découvrir si on tue ceux et ceux qu'on découvre, premièrement. Deuxièmement, autre question qui est quand même aussi très passionnante, c'est que les dominicains sont à l'époque l'ordre religieux qui est le plus intéressé par le savoir. Alors qu'il y a une grande tradition de saint Augustin qui est de dire qu'un chrétien ne doit pas trop savoir, il doit même respecter une sorte de sainte ignorance et les mystères, il ne faut pas trop savoir, chercher à élucider, seul Dieu sait. Ce n'est pas du tout la position des dominicains. Et les dominicains vont être ceux qui vont se battre pour reconnaître la dignité aux Indiens et les protéger de toutes ces folies cruelles des conquistadors. Mais c'est les mêmes dominicains qui vont être ceux qui vont être à la tête de l'Inquisition et qui vont organiser, notamment à Lisbonne, des pogroms les plus terribles contre les Juifs avec les mêmes sortes de tortures qu'on faisait subir aux Indiens. C'est-à-dire, les bébés indiens sont coupés en deux, de même que les bébés juifs sont coupés en deux, et qu'ils favorisent, ces mêmes dominicains, une abomination parmi les abominations, où on prend 2000 enfants juifs, et ça, on est à l'extrême fin du XVe siècle, 2000 enfants juifs, et on les déporte pour les séparer de leurs parents dans une île qu'on vient de découvrir, soi-disant douce, qu'on appelle l'île des Lézards. En fait, c'est tout près de Sao Tomé, là, à l'est du golfe de Guinée. Et les lézards, c'est des crocodiles. Donc, ils vont tous mourir dévorés par les crocodiles. Donc, vous avez des cruautés incroyables.
Oui, pourquoi les deux en même temps, quoi ?
Pourquoi les deux en même temps ? Donc, il y a une sorte de frénésie comme ça, on abandonne la raison et en même temps, on n'a jamais été aussi scientifique. Donc, vous savez, ce qu'il y a de fort dans le roman, c'est l'ambiguïté. Et c'est pour ça que les romans, ils sont normalement pour raconter l'espèce humaine. C'est que regardez Céline, quand il écrit des essais, c'est insupportable parce qu'il a une seule vision, c'est folie, etc. Et dans ses romans, comme c'est un immense romancier, comme on sait, donc il donne évidemment la possibilité à chacun d'exister, il donne sa chance à chacun. Alors que dans l'essai, c'est l'important, c'est l'idée qui ne donne pas sa chance à la personne. Oui.
Mais est-ce que vous n'avez pas peur ? Là, je parle de façon très intéressée, hein. Nous sommes beaucoup à le penser, c'est le livre principal de votre vie jusqu'à présent. Est-ce que vous n'avez pas peur que la force de cette troisième partie occulte, du moins dans les médias et dans la communication, tout le reste, tout le travail que vous avez fait ? Parce que cette troisième partie est tellement forte que finalement, on peut laisser tomber tout le reste, quoi.
Non, parce que... Vous n'avez pas peur de ça ? Alors, c'est pas ce que j'ai vu dans les critiques qui me ravissent, bien sûr, parce que c'est mon 11e roman et j'ai jamais eu un accueil comparable, donc c'est quand même très très réjouissant, très très vraiment émouvant parce que évidemment je suis depuis longtemps sur la scène, donc les Kalachnikovs sont prêtes, parce que j'ai voulu faire un livre en trois parties. Il y a le premier partie qui est une sorte de d'émerveillement devant la diversité du monde, que j'ai appelé curiosité. Donc je rappelle l'étymologie de curiosité, c'est du latin cura, le soin, comme dans cure, dans curatif. Donc le curieux prend soin du monde. Ensuite, il y a l'arrivée de Christophe Colomb, c'est la fièvre. Et puis après, il y a la cruauté. Donc curiosité, fièvre et cruauté. Pourquoi la cruauté ? Donc, il cherche de l'or. Et c'est aujourd'hui cette cupidité folle. On va échanger ce marché de dupes entre d'un côté l'extrême diversité du monde et de l'autre côté, ce que Marx appelait l'équivalent général. Donc on voit à quel point on perd au change. En abandonnant la diversité du monde infini, en botanique, en légende des gens, en musique, en tout ça, pour avoir une seule chose, ce métal jaune imbécile qui s'appelle l'or. Et c'est aujourd'hui. L'or, l'once d'or, il est à 1 300 $ aujourd'hui, 1 350 $. Il y en a qui pensent que ça va aller à 3 000 $ parce que tout le reste est trop compliqué. Donc on se réfugie dans l'or, dans l'équivalent général. Imaginez l'équivalent général. L'équivalent général, c'est aussi bête et mort que l'éternel féminin. Il y a une femme, une femme, une femme. Bien, de la même manière, il y a une diversité, une autre diversité, une autre diversité. Il n'y a pas l'équivalent général.
Puisque vous parlez de femmes, je ne résiste pas. Il faut que je retrouve ce texte. Vous en parlez quand même merveilleusement. Les femmes sont des avant-gardes, déjà des bateaux. L'amour qu'on en reçoit est un voyage. On y essuie des tempêtes, on y respire des senteurs rares. on s'y promène parmi des plantes inconnues. Il n'y a pas à dire, vous aimez les femmes. Bon.
Ben, vous êtes d'accord, non?
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais donc, dernière question.
Il faut parler des femmes parce que les marins s'en vont, les femmes naviguent pas. Donc les femmes restent seules. Les femmes restent seules, donc elles inventent toutes sortes de choses. D'abord, elles tiennent les maisons, comme pendant la guerre. C'est elles qui tiennent les maisons. Et puis, alors, il y a l'histoire, bien sûr.
Aucun elles sont là, breton
bien sûr, ben, évidemment, voilà, elles sont là. Et donc, c'est l'angoisse, c'est le pouvoir qu'elles gagnent. C'est toutes ces femmes qui essayent de se faire déclarer veuves parce que, comme ça, elles peuvent se remarier. Donc, les femmes sont là. Il faut voir ce que c'est que, je ne sais pas, peut-être un tiers de la population, un quart ou un tiers de la population masculine qui s'en va, et puis il y en a un sur deux qui reviennent au bout de 7-8 ans. Donc c'est le retour de Martha Guerre, souvent. Elles ont un compagnon où les esclaves sont venus et ont joué le rôle des marins partis. Ils les ont remplacés,
oui,
bien sûr.
Alors, vous avez accompli là un gros, gros travail. On a l'impression, dites-moi si je me trompe, que cette expérience, vous l'avez vécue comme une sorte d'examen de passage, en vous demandant, suis-je vraiment capable, là, de jouer dans la cour des grands? Est-ce que c'est un peu ça, la question que vous êtes posée?
Oui, enfin, oui, j'ai commencé par une première version qui était complètement nulle, puisque j'ai d'abord écrit 500 pages, et en le relisant 3 mois après, j'ai jeté 490 pages. Et puis, petit à petit, j'ai continué, et il y a eu une version, parce que encore une fois, le bateau n'était pas construit. Donc, j'ai reconstruit le bateau. Et puis, à un moment donné, on sent qu'à la 8e version, qu'il y avait quelque chose. Et puis là, je l'ai fait lire à une dizaine de lecteurs qui sont toujours les mêmes. Il y a mes deux éditeurs, Claude Durand, Jean-Marc Robert. Et puis, j'ai des amis et qui sont implacables. Et ils m'ont dit, la construction ne va pas. La construction ne va pas. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, qui était tout à fait évidente, qu'il fallait mettre le discours d'énonciation par ce merveilleux et infiniment courageux Dominica Montesinos, qui devant les conquistadors, qui sont quand même des drôles de cocos, hein, ils sont partis pour faire fortune, ils torturent les Indiens, il leur dit « vous ne pouvez pas faire ça ». Et ils sont là, ils sont 200 face à lui. Et
il donc, le il fait deux fois en 15 jours. Hein,
il le fait deux fois, il le fait deux fois avec un courage magnifique. Donc j'ai commencé de fait au début du livre, et ça donne évidemment une tension du livre. Donc j'attends énormément de ses lecteurs. Sans eux, j'avancerai pas. Si vous voulez, je travaille énormément, ils voient rien, et puis à un moment donné, je leur dis allez-y, allez-y. Et là, vous savez, c'est ce qui s'est passé pour l'exposition coloniale où j'avais travaillé 7 ans, et donc j'ai montré le manuscrit à Jean-Marc Robert, et il m'a dit il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors j'ai dit commence par la mauvaise. Il dit c'est comme la bonne, tu peux faire mieux. Et j'ai retravaillé un an, jour et nuit.
Et toujours avec le sourire.
Oui, parce que c'est normal d'aller plus loin. Puis à un moment donné, on vous dit, mais alors, quand est-ce que vous arrêtez? Vous arrêtez quand vous pensez que ça y est. Et là, ça y est, je suis, c'est vrai, fier de ce livre, tranquille, je voulais faire ça. Et ça m'a redopé parce que ça faisait longtemps que je voulais faire la suite à un autre roman que j'avais écrit sur l'immigration africaine, ça s'appelle Malaba. Et là, depuis une semaine, là, cette sorte de chaleur de la critique m'a donné l'idée que je crois vraiment très fertile pour écrire la suite de Madame Ba. Donc, une fois de plus, je pense que le bonheur est bon pour la santé.
Et l'humour aussi?
Oui. Ça, de toute façon, écoutez...
Ça vous est consubstantiel, comme
oui,
vous dites.
Franchement, comment ne pas rire?
Quand je parle avec vous, je pense souvent à ce mot de Pagnol, vous savez, méfiez-vous des gens tristes, ils sont rarement sérieux. Au fond, vous pourriez le prendre à votre compte.
Totalement, sur la gravité, la profondeur, totalement. Mais ce qui est formidable, je pense, c'est vraiment la capacité, comment dire, d'explication du roman. C'est-à-dire, c'est vraiment une machine à comprendre le monde. Et comme moi, j'adore comprendre, mais vraiment, et encore une fois, plus ça va, plus ce bonheur que j'avais là, en classe de 6e, 5e, d'apprendre, de comprendre, de voir comment ça marche, cette passion est toujours là. Et puis, on comprend le monde d'aujourd'hui, parce que la mondialisation, les racines sont là. On a aussi de la cruauté, on a aussi de l'équivalent général. On a aussi cette lutte entre le savoir et l'obscurantisme. On a cette ouverture et ce repli communautaire. On a cette pression souvent insupportable d'un certain nombre d'extrémistes des religions. Donc on parle d'aujourd'hui.
Ainsi s'achève cette émission. Je vous rappelle le titre du roman d'Éric Orsenna, L'entreprise des Indes, superbe expression de la liberté d'esprit et du bonheur des mots, au service de l'intelligence et de la création, tel que le revendiquait par exemple, je pensais en le lisant, Victor Hugo, vous savez, dans le texte sur la bataille d'Hernani. Je vous rappelle également 2 entretiens récents d'Éric Orsenna sur Canal Academy, l'un concernant son précédent livre, Et si on dansait, et l'autre dans le cadre de notre série L'Essentiel. Éric Orsenna, merci.
C'est moi qui vous remercie. Il faut savoir que L'Entreprise des Indes, c'était le nom que Christophe Colomb avait donné à son voyage. C'est une entreprise, avec tout ce que ça a de beaux mots, l'entreprise. Voilà, parce que ce n'est pas un projet, ce n'est pas un rêve, c'est une entreprise.
Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.